RCF. Dans cette émission, nous allons nous arrêter à la famille, aux familles aujourd'hui, avec le père Alain Thomasset. Il est professeur de théologie morale, doyen à la faculté de théologie du Centre Sèvres à Paris. C'est la faculté des jésuites, on peut dire. Et donc, nous allons parler des familles aujourd'hui, notamment dans la suite de la joie de l'amour, le texte du pape François qui concerne les familles. On voit bien qu'une grande question pour l'Église, pour les chrétiens aujourd'hui, c'est de continuer à rejoindre les familles dans leur diversité. Et c'était d'ailleurs le projet du synode sur la famille et de cette exhortation apostolique qui a fait suite par le pape François. Mais on peut dire que rejoindre les familles pour l'Église aujourd'hui, ça peut rester compliqué.
Oui, déjà, il y a une réalité qui est variable, qui est diverse de nos familles aujourd'hui. On parle des familles, la pastorale des familles, pas seulement de la famille, parce que voilà, la réalité est là, il y a des familles recomposées, des familles de personnes divorcées, des personnes qui vivent sans être mariées, voilà, et tout ça, toutes ces personnes ont aussi besoin d'être accompagnées et accueillies dans l'Église. Et évidemment, le pape François, dans l'exhortation apostolique post-synodale sur la joie de l'amour, d'abord loue beaucoup le mariage chrétien, qu'il faut encourager, bien entendu, mais aussi invite à une pastorale d'accueil, précisément, de toutes ces situations diverses, une pastorale d'accompagnement, de discernement, voilà, pour aider toutes ces personnes, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur situation familiale, eh bien, à pouvoir vivre mieux du Christ et à pouvoir trouver leur place dans l'Église.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que pour les chrétiens aujourd'hui, la difficulté pour les catholiques aujourd'hui, c'est de rejoindre justement ces différentes familles, de pouvoir se mettre à l'écoute, aller vers elles, et que l'un des enjeux est là d'abord?
Alors il est là aussi, je dirais, c'est-à-dire que de fait, il y a une dimension missionnaire dans ce que le pape nous invite à vivre, mais je dirais il y a aussi une dimension d'accueil d'abord aussi, c'est-à-dire, parce que ces personnes, elles viennent à nous aussi, et quand elles demandent le baptême, quand elles demandent peut-être à vouloir vivre davantage des sacrements, alors que pour l'instant, elles ne peuvent pas. Voilà. Donc, il faut commencer à accueillir ces personnes qui sont déjà là, ne pas les repousser et ne pas, parce qu'il y en a beaucoup qui partent aussi sur la pointe des pieds, qui ne veulent plus parce qu'elles se sentent exclues ou elles ne se sentent pas accueillies. Mais c'est vrai que c'est aussi une démarche d'aller rejoindre le mieux possible ces différentes réalités qui sont vécues aujourd'hui. Je pense notamment aux personnes pauvres, aux familles pauvres, ou bien aux familles qui se sentent exclues de l'Église parce qu'elles ont une situation familiale dite irrégulière, entre guillemets. Comment on peut les rejoindre? Comment on peut les accueillir? Comment on peut les aider? Comment on peut les accompagner? C'est ça le défi pastoral.
Quand vous parliez des familles pauvres, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi c'est important d'être présent auprès de ces familles et qu'est-ce que ces gens-là, finalement, peuvent dire de l'Évangile d'une certaine manière?
Oui, je crois que les familles pauvres ont une grande expérience de la vie de famille. Pour elles, la famille, c'est sans doute l'affaire la plus importante de leur vie. C'est ce qui leur permet de tenir, notamment, dans les situations difficiles. Et je crois qu'elles ont aussi beaucoup à nous apprendre sur la vie de l'Évangile, sur la manière d'entendre, de comprendre comment le Christ les accompagne dans leur vie. Elles connaissent beaucoup de souffrances, elles connaissent beaucoup d'épreuves, et pourtant, elles tiennent dans ces épreuves. Elles apprennent à les surmonter, à les traverser, même si c'est parfois tragique. Et nous avons beaucoup à apprendre de leur manière de vivre. Et donc, je pense qu'être à l'écoute de ces personnes pauvres, elles nous renvoient à l'essentiel dans nos vies, qui est la relation, qui est l'amour, qui est la fraternité au sein de la famille. C'est les liens qui les font tenir. Et je crois que ça, c'est une leçon pour toutes les familles.
Pour continuer, peut-être que c'est intéressant aussi de se dire qu'aujourd'hui, dans la dynamique de la joie de l'amour, il y a des conversions pastorales à faire. Si vous aviez à dire quelles conversions à faire pour continuer de rencontrer ces familles dans leur diversité que vous avez évoquée.
Moi, je pense qu'il y a, j'ai l'habitude, il y a trois conversions. Une première, c'est d'adopter le regard du Christ sur ces personnes. Le texte de l'exhortation le dit très bien. Il dit « Le Christ a accueilli les personnes qu'il a rencontrées avec amour et tendresse en les accompagnant en vérité, patience et miséricorde, tout en annonçant les exigences du royaume. Je cite le numéro 60 là, d'exhortation. Mais tout est dit. Donc adopter le regard du Christ, ce regard à la fois bienveillant, accueillant et en même temps accompagnant, vérité, patience et miséricorde. Il y a les trois. Pas seulement miséricorde, il y a aussi faire la vérité, mais pour ça on a besoin de la patience aussi, c'est-à-dire de temps. La première conversion, le regard. Et ça, ça doit inspirer toute notre pastorale. Adopter ce regard du Christ. La deuxième, c'est de penser que le mariage, c'est un processus de maturation. C'est un chemin de croissance. C'est pas tout cuit, c'est pas tout fait le jour du mariage avec le sacrement du Christ. Très bien. Mais on sait bien qu'il y a des étapes, il y a des vies. C'est compliqué, la vie de couple. Et qu'elles ont besoin, ces familles, d'être accompagnées. Et donc, nous aussi, on a besoin de comprendre, comme pasteur, comme église, que c'est pas fait d'un coup. Voilà, ça c'est le deuxième. Tout est un chemin. La troisième conversion, c'est dans la pastorale. C'est faire que cette pastorale soit plus miséricordieuse. On ne peut pas se contenter d'appliquer une norme ou une règle de l'Église comme ça sans plus. Il faut aujourd'hui considérer les situations singulières, parce qu'il y a beaucoup de familles qui vivent des situations complexes et qui n'ont pas forcément choisi, où il y a des circonstances atténuantes, où c'est l'histoire qui explique ces situations. Donc il faut entendre et discerner quelle est la responsabilité de chacun dans ces situations. Et du coup, le pape nous ouvre la possibilité pour ces familles-là qui sont en situation dite irrégulière, au cas par cas, et après discernement, peut-être de retrouver l'accès au sacrement de réconciliation et de l'Eucharistie. Il faut le savoir. Voilà. Mais c'est un processus qui suppose discernement, accompagnement. C'est ce qu'il appelle une pastorale miséricordieuse et missionnaire.
Viens et vois le temps où Dieu se met au pas de l'homme. Viens et vois le temps où l'homme se met au pas de Dieu. Toi dont l'attente est si profonde, une aurore au bout de la nuit, toi qui ne rêves que d'un monde où l'on fait place à la vraie vie, il est ce monde autour de toi. Viens et vois le temps où Dieu se met au pas de l'homme. Toi qui espères une lumière éclairant toutes les nations, les réchauffant comme une braise, enfant d'une même maison, il est ce monde devant toi. Viens et vois le temps où Dieu se met au pas de l'homme. Viens et vois le temps où l'homme se met au pas de Dieu. Toi qui proclames la nouvelle, la mort est remise au grenier, et jusqu'au fond de nos ruelles, le jour nouveau est arrivé. Il est ce monde, il est en toi. Et vois le temps où Dieu se met au pas de l'homme. Viens et vois le temps où l'homme se met au pas de Dieu.
Sur RCF, la suite de votre émission Une fois pour tous avec le père Alain Thomasset, doyen de la faculté du Centre Sèvres à Paris, spécialiste de théologie morale, et nous nous posons la question, quelle pastorale des familles ?
Alors, revenons à ces trois aspects que vous avez évoqués. Premier aspect, adopter le regard du Christ. Concrètement, ça peut donner quoi dans la pastorale ? Qu'est-ce que ça doit changer dans la manière pour les chrétiens d'entrer en relation avec les autres ?
C'est d'abord un accueil inconditionnel. C'est-à-dire, quelle que soit la situation des personnes, l'accueillir avec bienveillance, avec générosité, sans les juger. comme le Christ l'a fait, mais avec un regard d'amour, de tendresse, comme dit le texte, et comprendre, j'allais dire, entrer, comme dit le pape, entrer dans le chaos des autres, entrer dans leur histoire. Ne pas d'abord avoir une situation, un réflexe de jugement ou de mettre les gens dans des cases en disant ben, « cela c'est bon, cela c'est pas bon ». Non, c'est vraiment un accueil inconditionnel. Et ça, ça a des conséquences très immédiates et très concrètes.
Le deuxième aspect que vous avez évoqué, c'est un aspect aussi très important. Par exemple, ça concerne les laïcs et les prêtres qui accompagnent des jeunes qui se préparent au mariage. C'est que le sacrement du mariage, le mariage, c'est un chemin. Avoir bien ça en tête, ne pas vouloir avoir des gens parfaits dès le départ, mais bien avoir cette notion finalement de cheminer avec.
C'est vrai avant le mariage, c'est vrai après le mariage. Voilà, c'est vrai avant le mariage parce que dans la préparation, les gens cheminent, là, ils bougent, il y a des choses qui se passent. On sait bien que quand des couples, des fiancés sont amoureux, quelque chose leur est dit de Dieu finalement dans leur vie, il y a quelque chose qui les dépasse. Voilà, l'amour, c'est plus grand qu'eux. Voilà. Et du coup, c'est un très bon endroit pour parler de Dieu, pour parler de la vie de Dieu dans leur vie. Et c'est un très beau lieu de... pour dire d'initiation à la vie de l'Église et à l'initiation à la vie de l'Esprit Saint, finalement, qui habite leur existence. Et puis, ça veut dire aussi accompagner les couples après le mariage. Parce qu'il peut y avoir des crises qui arrivent, et c'est normal, je dirais, mais comment on les aide sur ce chemin? L'Église n'est pas, comme disait un jour un évêque, n'est pas un tribunal qui juge l'arrivée de la course pour voir qui est arrivé. Non, l'Église, elle court avec les gens. Et du coup, elle se salit les bottes. C'est normal. Mais vous voyez, c'est différent comme pastoral. Je ne suis pas celui qui va juger ben, si vous êtes bien, donc je peux vous admettre. Non, je cours avec eux et je les aide à avancer.
Oui, parce que c'est ça qu'on peut entendre parfois, des questions se poser à ceux qui accompagnent des couples, par exemple, qui se préparent au mariage chrétien, qui sont très éloignés de l'Église. Faut-il aller plus loin? Faut-il donner le sacrement de mariage? Voilà des questions qui se posent aujourd'hui, puisque la masse des jeunes couples qui viennent demander à recevoir ce sacrement du mariage ne sont pas forcément des pratiquants réguliers.
Oui, et puis c'est de plus en plus comme ça d'ailleurs. Hein. Et souvent, il y a même un des deux qui n'est pas baptisé. Et du coup, la préparation au mariage est aussi l'occasion de l'interroger. Parfois, il y a des belles découvertes. Alors c'est vrai, et le pape insiste en disant, si vous êtes dans une posture d'accompagnement, commencez par valoriser ce qui est bien dans ce qu'ils vivent. Voilà. Commencez à voir ce qui est bon. Et faites de cela un moyen pour avancer plus loin. Voilà. Ça, c'est une posture pastorale très importante. Donc, voilà. Alors, ça n'empêche pas, au contraire, que ce préparation au mariage soit un chemin catéchuménal aussi, d'une certaine façon. C'est-à-dire, pas forcément faire de la catéchèse, mais profiter de... Ben, ils vont vivre un sacrement. On peut regarder le rituel ensemble. Qu'est-ce qu'il dit, ce rituel? Il pose, en fait, des vraies questions sur la foi. Et ça peut être un chemin d'interrogation, d'approfondissement de leur propre expérience de foi. Voilà. Mais on y va pas à pas. Avec eux. Peut-être tous n'iront pas au sacrement. Peu importe. Enfin, si, c'est important pour eux, mais je veux dire, on n'a pas à juger à l'avance de ce qui est possible ou non. Ça dépendra d'eux. Pareil pour des divorcés mariés qui voudraient être réintégrés à l'accès à l'Eucharistie. On ne sait pas à l'avance ce que va donner le discernement. Mais l'important, c'est de se mettre en route et qu'ils sentent qu'ils sont écoutés, pris au sérieux, accompagnés et, j'irais dire, intégrés dans une fraternité. C'est ça, finalement, qui va compter aussi pour eux.
Est-ce qu'on pourrait dire que, comme comparaison, si on prend dans l'Évangile, il y a un texte qui dit quelque chose de ça? C'est le texte, finalement, du disciple des disciples d'Emmaüs, où le Christ marche avec ces deux hommes, leur raconte tout ce qui le concernait dans l'Écriture, etc. Ça dit quelque chose de ce cheminement, finalement.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ils ne le reconnaissent pas au début. Hein. Donc, ça va être tout le processus aussi pour ces personnes qui sont en marche de les aider à reconnaître comment le Christ déjà les accompagne dans leur vie. Et puis, peut-être, justement, que leurs yeux s'ouvrent à la fraction du pain, c'est-à-dire à ce geste du Christ qui livre sa vie pour chacun de nous. Mais moi, je prendrais aussi le texte de Bartimée, par exemple. Le texte de Bartimée, c'est intéressant parce que c'est la foule qui marche. Bartimée crie et puis la foule, elle commence par s'opposer. Et puis le Christ, lui, il a entendu le cri. Et du coup, il demande, appelez-le. Et du coup, la foule se transforme et elle l'appelle et elle l'encourage. Vous voyez, il y a un passage d'une foule qui peut être hostile. Et peut-être que c'est parfois notre première réaction en disant, qu'est-ce qu'ils ont à faire là, ces gens-là, ils n'ont pas leur place dans la paroisse. Mais le Christ, lui, nous dit autre chose. Il nous dit, appelez-le. Et donc là, du coup, la paroisse peut aussi se transformer et devenir accueillante et fraternelle. C'est peut-être un texte à méditer aussi.
Je t'ai appelé. traverses les eaux, je suis avec toi. Tu ne seras pas noyé ni submergé. Dans l'épreuve, je suis près de toi. Moi, ton ami, ton Dieu et ton Sauveur.
Sur RCF, dernier volet de notre rencontre avec le père Alain Thomasset dans cette émission Une fois pour tous. Et nous nous posons la question de quelle pastorale des familles pour aujourd'hui.
Un troisième aspect que vous avez évoqué, on peut dire, c'est finalement la question du discernement, c'est-à-dire cheminer avec les gens parce qu'on voit qu'une difficulté pour des personnes, par exemple, qui sont divorcées, remarier, de ne pas pouvoir avoir accès au sacrement, etc. Ça peut être source de grande douleur. On peut dire que le texte, l'exhortation du pape après le synode sur la famille, ouvre des chemins pour prendre le temps d'avancer ensemble, de parler, de voir. Ça, c'est aussi important finalement de le dire, de le faire savoir.
Oui, tout à fait. C'est trop peu connu d'ailleurs. Bon, il peut y avoir aussi des réactions surprises à cette ouverture, bon, qui est tout à fait, je dirais, solide théologiquement. On peut tout à fait comprendre que ça soit possible. Pourquoi ? Eh bien, parce que la responsabilité des gens dépend des cas et des histoires. Et donc, on peut tout à fait considérer que des personnes, ok, sont dans des situations objectivement irrégulières, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas conformes à l'idéal chrétien. Cependant, soit leur responsabilité est diminuée pour différentes raisons dans cette situation objective, et ce qu'il faut peser, c'est précisément leur responsabilité personnelle et où est-ce qu'ils en sont dans leur conscience de leur relation à Dieu. Et c'est ça que le discernement va pouvoir déceler, aider à comprendre, à faire venir à la lumière. Et faisant venir à la lumière cette vérité de leur vie devant Dieu, eh bien, sans doute qu'ils pourront, dans certains cas, être admis à nouveau à l'Eucharistie parce qu'on considère que leur situation le permet. Sans doute pas tous, mais sans doute que beaucoup qui auront commencé ce discernement, quel que soit le résultat du discernement, et ce n'est pas forcément d'ailleurs la demande première, hein, les gens ne demandent pas tous d'ailleurs à forcément recevoir le sacrement de l'Eucharistie, mais c'est sans doute peut-être avoir une responsabilité autre dans la paroisse. Ça peut être parfois de pouvoir faire de la catéchèse ou d'avoir une responsabilité liturgique ou qui n'était peut-être pas possible avant dans la paroisse, mais qui va le devenir. Oui. Il y a aussi plusieurs types d'intégration. L'important, c'est qu'ils se sentent vraiment de la famille Église. Évidemment, pour beaucoup, pour certains, l'accès au sacrement sera important. Mais ce sera à juger au cas par cas.
Parce que l'Eucharistie n'est pas fait que pour les gens parfaits ou les gens en règle. C'est ça peut-être qu'il faut se dire. C'est la question aussi de la grâce, d'une certaine manière, il y a la discipline de l'Église, mais il y a aussi la grâce du sacrement.
Oui, et puis le pape rappelle bien que l'Eucharistie n'est pas réservée aux purs et que ce n'est pas une récompense à donner aux gens parfaits. Hein. C'est aussi un pain pour la route, comme on le chante souvent. Et donc de fait, c'est un encouragement. C'est pour ça que le pape demande qu'on soit plus, je dirais, plus attentif au travail de la grâce en chacun et plus attentif à prendre en compte la conscience des personnes, ce qu'elles vivent intérieurement. Ça suppose un accompagnement, de fait. Ça suppose du temps passé avec elle. C'est exigeant, mais évidemment, c'est source de bonheur et de joie aussi. Et de fait, la réconciliation n'est pas non plus le tribunal de la pénitence, mais l'exercice du pardon du Seigneur qui s'exerce à ceux qui, de fait, demandent ce pardon et reconnaissent aussi leurs fautes et leurs péchés.
Ça veut dire qu'il y a des conversions à faire, des manières d'être différents, des investissements différents à vivre en Église pour accueillir toutes ces personnes et qu'il y a du temps à se donner pour vivre, par exemple, ces temps d'écoute, ces temps de discernement, ces temps de cheminement.
Oui, en fait, ça existe déjà beaucoup, sans doute, dans la pastorale, hein, ce temps d'écoute, d'accueil, d'accompagnement. C'est déjà vrai dans plein d'endroits. Donc. Mais Maurice Laetitia nous encourage à aller plus loin et à ouvrir large je dirais, notre cœur et nos bras pour les accueillir. Alors, il y a des diocèses qui ont déjà mis en place des processus, des directives diocésaines pour ces processus d'accompagnement et de discernement pour les situations familiales complexes. Il y a à peu près une vingtaine de diocèses en France qui ont déjà commencé à faire ça. Du coup, il y a un cadre ecclésial qui ouvre ces nouvelles possibilités. Et voilà, elle mérite d'être connue, elle mérite d'être développée. Et puis, bon, chaque diocèse doit se décider ensuite et chaque situation est singulière. Mais je crois que ça signifie, et le pape nous y encourage, à vraiment avoir une pastorale miséricordieuse d'accompagnement, de discernement, pour que vraiment les gens se sentent davantage intégrés dans la vie de l'Église.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut davantage encore en Église, par exemple, se former à cet accompagnement? Parce que c'est peut-être pas toujours évident pour les gens et qu'il faut accepter de se former d'abord avant d'entrer dans cette démarche d'accompagnement.
Oui, bien sûr, il faut former des gens à l'accompagnement. Il y a déjà des gens qui sont bien formés. D'une certaine façon, il faut leur faire confiance, il faut les repérer, peut-être leur donner une mission, voilà, que l'évêque ou les personnes responsables de la pastorale familiale ou catéchuménale les reconnaissent. Voilà, il y a déjà des gens formés, il faut déjà... Voilà, donc profitons-en. Mais il faut aussi en former d'autres. Il faut sans doute former les gens à l'écoute, il faut sans doute former les gens à l'accompagnement, au discernement, certainement, oui, oui. Mais voilà, ça va se faire petit à petit. Il y a déjà des choses qui existent dans des centres spirituels, à Morez, au Châtelard, ailleurs, au Centre Sèvres. Et en fait, c'est aussi une dynamique d'ensemble, c'est-à-dire pas seulement former les gens individuellement, mais aussi former un esprit finalement de collaboration. Parce que ces situations familiales complexes, elles invitent la pastorale familiale à travailler avec le catéchuménat, avec la pastorale du baptême, avec la pastorale des jeunes, avec la pastorale de la diaconie. Tout est lié avec les familles. C'est un peu le carrefour. Donc c'est aussi un fonctionnement ecclésial plus synodal, je dirais, où les différents acteurs partagent entre eux pour savoir quelle est la bonne attitude à adopter dans les situations qu'on rencontre.
Et donc ça s'inscrit aussi dans toute la démarche synodale, puisque vous avez employé le mot que le pape François a proposé, qui s'est vécu en diocèse, les remontées sont arrivées maintenant à Rome et tout ça, et donc le travail continue. Vivre une église synodale, une église en conversation, une église où, comme vous le disiez, les différentes personnes dans les services se parlent, cherchent à collaborer aussi suivant les états de vie, avec des états de vie différents.
Oui, tout à fait. Je pense que la pastorale de discernement et d'accompagnement suppose la synodalité. Elle va avec. En tout cas, c'est logique que les pasteurs discutent avec leurs EAP, que les EAP discutent entre elles, que les acteurs pastoraux, les services diocésains partagent entre eux, fassent des opérations communes. Le fonctionnement en silo est impossible dans ce genre de pastoral. Alors bon, ça ne va pas se mettre en place du jour au lendemain, mais on voit bien que ça va dans ce sens-là et que... Il y a un avantage. Parfois, on me pose la question, on me dit, mais si on fait une pastorale du discernement et de l'accompagnement, ça va être l'arbitraire qui va régner, chacun va faire un peu comme il veut. Je lui dis non, l'arbitraire, c'est maintenant qu'on le vit. Parce que souvent, les gens qui doivent décider sont seuls, ou les pasteurs doivent décider sur des situations d'urgence et ils n'ont pas de cadre global, diocésain. Donc, moi, j'encourage beaucoup en disant, il faut un cadre diocésain pour rassurer les acteurs et donner une manière de faire commune, même si il reste des différences, quels que soient les endroits, bien entendu. Mais ce qui est important, ça rassure, ça donne un cadre et ça permet le dialogue, précisément. C'est-à-dire, une fois qu'on a un cadre, on a l'expérience et après, on partage l'expérience. Et donc, on peut aussi modifier le cadre, améliorer les choses. Et vous voyez qu'on rejoint la synodalité.
Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, puisque vous le disiez, dans une vingtaine de diocèses, des choses se mettent en place, se donner un cadre de diocésain. Dans la morale de l'Église, c'est un peu toujours ça, c'est l'universel, et après il y a le local, et après on revient jusqu'à la conscience. Mais se donner un cadre diocésain, c'est quoi concrètement?
Très concrètement, c'est dire, donner des directives sur les manières de faire. Ça veut dire, dans la plupart des cas, si vous avez des demandes dans votre paroisse de personnes, mettons, prenons l'exemple, de divorcés remariés, d'abord, il faut les écouter, il faut bien sûr les accueillir. Et ça veut dire que les curés savent qu'il y a des personnes désignées dans le diocèse pour pouvoir accompagner personnellement ces personnes. Alors, il y a, mettons, une quinzaine de personnes qui peuvent accompagner. Parfois, c'est des prêtres, parfois, c'est des laïcs, hommes ou femmes d'ailleurs, peu importe du moment, qui sont bien formés à l'accompagnement. Ça, c'est un premier temps. Puis dans un deuxième temps, il y a ce qu'on appelle le discernement pastoral, c'est-à-dire que la personne, une fois qu'elle a discerné, et ça prend des mois, c'est un processus, elle va revoir son pasteur, sa communauté locale. Et à ce moment-là, le pasteur voit comment on peut incarner concrètement ce discernement premier que la personne a fait devant Dieu. Est-ce qu'on peut, de fait, l'admettre au sacrement si c'est ça sa demande? Dans quelles conditions? Qu'est-ce que ça suppose pour la communauté? Comment il faut aider la communauté à accueillir? Peut-être former, informer la communauté. Voilà. Mais c'est souvent ce processus en deux temps. Vous voyez? Accueil, discernement personnel, discernement pastoral. Tout ça sous la responsabilité de l'évêque. C'est-à-dire que de toute façon, en dernier recours, c'est toujours l'évêque qui peut décider. Mais en général, ça se passe au niveau local, parce que le processus a déjà été bien expliqué. Ça, c'est un type d'exemple. Il peut y en avoir d'autres, mais la plupart des cas, c'est comme ça que ça se passe. Et pareil pour les catéchumènes. Les catéchumènes qui vivent une situation familiale complexe, des gens pas mariés ou mariés avec une personne divorcée, la question va être la même, d'une certaine façon. Il y a un accueil de l'équipe pastorale. Et puis après, il y a une orientation, alors si nécessaire, vers un chemin de discernement personnel, puis pastoral. Alors pour le baptême, en dernier recours, c'est l'évêque, bien sûr. Mais vous voyez, c'est ce genre de processus qui est quand même pas très compliqué, mais qui donne finalement des orientations simples sur des manières de faire que tout le monde peut faire.
Est-ce que ça veut dire que ça invite les chrétiens à reprendre de manière nouvelle, à réfléchir de manière nouvelle, par exemple, au sacrement du mariage, avec cette notion de chemin que vous venez d'évoquer? Le sacrement, le mariage, ça peut être quelque part comme un idéal, mais se rappeler toujours que c'est un chemin et qu'un chemin parfois est semé d'embûches. Enfin,
vous savez, le grand mystère de la vie chrétienne, c'est l'incarnation. L'incarnation du Christ qui s'est fait homme. Eh bien, c'est vrai dans le mariage aussi. L'incarnation, ça suppose qu'on part d'une réalité physique, corporelle, psychologique, historique, et puis qu'on va avancer avec le Christ sur ce chemin de sainteté. Donc c'est ça, en fait. Je dirais, c'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Donc comment l'Église peut se mettre au service de ça? C'est pas délivrer une prestation à un moment donné. Ça, c'est, on pourrait dire, il faut passer de cette pastorale de la prestation, où les gens rentrent dans les cases ou ne rentrent pas, à une pastorale d'accompagnement et de discernement, où, quelle que soit la situation de la personne, on va aider cette personne, ou ces personnes, si c'est un couple, à cheminer sur le chemin de sainteté. C'est ça, en fait. Donc le mariage, le sacrement de mariage, c'est un début. C'est le début d'un chemin. Un chemin nouveau, parce que le Christ est partie prenante. Sa grâce est là, elle opère. Bien, commençons à les aider. Ils ne sont pas mariés, ils cheminent vers le mariage. La grâce est déjà là aussi, dans leur cœur. Ils ont ce souhait. Comment on va les aider à grandir, voyez? Donc c'est vraiment entrer dans cette perspective. La miséricorde est première. D'ailleurs, le pape nous dit, c'est le centre de la révélation. La grande nouvelle, la grande bonne nouvelle de la vie chrétienne, c'est que Dieu fait miséricorde. C'est-à-dire qu'il nous aime, il nous pardonne et il veut nous relever. Donc vivre cette miséricorde, c'est ça dont l'Église doit témoigner d'abord.
Père Alain Thomassé, merci beaucoup.